Ouais, alors là, on voit du coup notre jardin. Ça fait à peu près 3600 mètres carrés de surface cultivable. Et là, bah, c'est début mars. Alors, donc là, on a des blettes. Elles vont monter en graines et faire une sorte de tapis de blettes un peu permanent. On aimerait bien faire ça parce qu'on adore les blettes. C'est vraiment notre culture phare. Et sinon, il y a beaucoup de choses qui sont bâchées parce que c'est notre manière de désherber en sol vivant. Donc, de le moins possible détruire la vie du sol. Donc, on bâche beaucoup de zones pour que du coup, dans 2-3 semaines, quand on va commencer à planter plein de trucs, bah, tout soit nickel et on n'ait pas besoin d'utiliser de tracteur ou de remuer trop la terre pour désherber. Pour s'imaginer, il y a quand même beaucoup d'arbres. C'est aussi une particularité de ce jardin par rapport à d'autres espaces de maraîchage parce que c'est entouré de beaucoup d'arbres, donc on a beaucoup d'oiseaux. On a aussi des hérissons qui se cachent un peu partout. On les voit pas, mais ils viennent manger les limaces aussi. Ils sont très choux et on a aussi des chats et il y a aussi des caravanes qui se baladent un peu partout. Voilà, donc c'est un peu un décor un peu atypique.
La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle.
Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action?
Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine.
Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête.
Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire.
La violence, c'est le mépris envers les populations.
Et c'est le bouffon du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance.
On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois.
Oui, ça va passer aussi par du sabotage.
Là, c'est plus une grue qui s'est effondrée.
Je sentais qu'il se passait quelque chose.
Saison 3, épisode 13. Pratiquer l'écologie queer. Maraîchage, chantier et défense de terre. L'année dernière, dans l'épisode 11 de la saison 2, éclosion transpédéguine. Faire proliférer les écologies queer, on s'était demandé que peuvent apporter nos vécus transpédéguines à l'écologie politique. Que peuvent être des écologies queer et comment les penser? Pour compléter et développer ces réflexions, qui étaient dans cet épisode plutôt théoriques, on a eu envie d'enquêter sur la présence et les pratiques des queers dans les milieux écolo et autonomes. Le premier constat que l'on a pu faire, c'est que peu des personnes que nous voulions enregistrer se revendiquaient de l'écologie queer. Car pour la plupart, elles étaient peu familières de ce concept. Cela nous montre que les écologies queer peinent encore à émerger ou à être saisies dans le contexte français, malgré une constellation de lieux et d'expériences où celles-ci peuvent se développer. Malgré cela, comme on va le voir dans cet épisode, les écologies queer nous apparaissent toujours comme une manière pertinente de repenser les théories et les pratiques écologistes. Cela nous amène à repenser comment on habite un territoire, comment on relationne avec le vivant et comment on fait communauté en dehors des modèles cis-hétérosexistes et anthropocentrés. Alors, comment s'organiser pour récupérer et rendre les écologies et ses pratiques compatibles avec nos vécus transpédéguines? En mars 2024, on s'est rendu à Dijon, au quartier libre des Lentillères. Les Lentillères, c'est un quartier de 9 hectares qui est squatté depuis 2010 pour lutter contre la bétonisation de cette ancienne friche agricole par la deuxième phase d'un projet d'éco-quartier porté par la mairie de Dijon. C'est un quartier divers où s'entremêlent entre autres des potagers, individuels ou collectifs, une cantine, des hérissons et des oiseaux, des promeneurs, des promeneuses, un fournil à pain, des plantes sauvages, plus de 80 habitants habitantes dans 12 lieux d'habitation différents, etc., etc. Fin 2019, la mairie de Dijon a décidé d'abandonner le projet d'écocité. Une victoire importante pour les Lentillères. Cependant, depuis juin 2021, le maire, François Repsamen, est revenu sur son engagement et a annoncé sa volonté d'urbaniser un peu plus d'un hectare sur la frange est du quartier. Dans ce contexte, d'un quartier toujours en lutte, on a discuté avec Sol et Jean-Yves, membres du Jardin des Maraîchères, le projet de maraîchage collectif du quartier, Duchesse, habitante sur la frange est, menacée d'urbanisation, et avec Max, membre du collectif qui organise la construction d'une grande maison commune sur le quartier. Avec elle, on a parlé de l'évolution de la présence des personnes queer sur les quartiers et comment ça a modifié les dynamiques sur place. De ce que le quartier et ses pratiques ont pu apporter à leurs expériences en tant que personnes TPG. De chantiers en mixité choisie, sans maxis hétéro, pour se transmettre des connaissances techniques. De projets de maraîchage, sortant du modèle classique de la ferme familiale cis hétéro et capitaliste. De l'esthétique de la friche, et de comment l'écologie queer pouvait s'exprimer sur les Lentillères. On leur laisse la parole, et bonne écoute!
Alors là, on est dans la serre à plants du Jardin des Maraîchères, qu'on abrévie en général en disant JDM. Donc c'est là, c'est notre petite nurserie de plants, où on fait les semis, on veille au fait que les petits plants poussent bien. Et moi, je m'appelle Sol, et ça fait presque 4 ans que j'ai rejoint le collectif. Et le collectif, il est né en 2012, 2 ans après le début de l'occupation des Lantières. Rapidement, en 2012, il y a commencé à avoir ce projet de maraîchage. Avant, c'était plutôt des petits potagers. Et de maraîchage pour fournir des légumes à la ville et montrer en fait que ces terres pouvaient produire plein de choses, plein de légumes et nourrir des gens et que en fait, c'était vraiment utile de préserver ces terres. Donc c'était ça le point de départ du projet. Moi, j'avais un taf à Paris à la base et j'ai eu un peu une prise de conscience écolo et j'ai voulu changer de vie. Et en particulier, je voulais faire du maraîchage. Je crois que c'est un parcours assez classique. Enfin, je vois ce parcours de plus en plus, des gens qui plaquent tout et qui commencent à se dire qu'ils veulent faire du maraîchage. Et donc, j'avais fait, avec la personne avec qui je suis en relation, on avait voyagé pendant 1 an, on avait vu pas mal de projets, on avait fait du woofing, on avait été dans des assos, dans des trucs plus ou moins engagés. Et en fait, quand on est arrivé aux Lantières et que j'ai commencé à participer au JDM, j'ai tout de suite vu une vraie différence dans la manière dont les choses se passaient. Déjà en termes de composition des gens, et là ça fait le lien avec les questions queer. Il y avait des personnes queer dans ce collectif, ce que j'avais pas vu depuis le début de mes expériences en woofing, et où c'était toujours assez classique, une famille hétéro, avec des enfants qui font une ferme, ou en fait des gens qui par exemple travaillent tous les jours à fond et sont un peu tout seuls. Disons que les personnes qui font du maraîchage en général, que j'ai croisées, il y avait beaucoup de mecs cis. C'est sûr. En fait, c'est une activité quand même beaucoup occupée par les mecs cis. Et un peu métier de bourrin. Mais en fait, c'est aussi les conditions de ce métier qui sont invivables. Enfin, genre, si tu n'es pas un bourrin en fait, dans le maraîchage, dans le système commercial, capitaliste, etc., c'est difficile de s'en sortir financièrement. Donc, il y a aussi un truc. C'est beaucoup de mecs bourrins qui savent tout sur tout. Qui prennent pas le temps forcément de discuter de comment tu te sens ou quels sont tes besoins. Il y avait aussi des trucs très genrés, par exemple, de voir des couples. En général, il y a le mec qui fait le maraîchage et la meuf qui fait des plantes aromatiques et médicinales. Genre, c'est le truc ultra classique, etc. Et nous, il y a un moment, on a voulu renverser un peu ça et se dire, ok, par exemple, le tracteur, même si on l'utilise très peu, en fait, ça va être que des personnes sexisées qui vont l'utiliser, quoi. Et aucun mec cis... hétéro ne se mettra sur ce tracteur. C'était pas transmis, quoi, les compétences pour conduire ce tracteur. Et donc voilà, je pense que quand t'arrives, en tout cas moi ça m'a fait cet effet, quand t'arrives dans un collectif et tu vois que c'est des meufs ou des personnes queer qui prennent en charge certains trucs que tu penserais réserver que aux mecs cis normalement, ça te donne plein d'imaginaires de ce que tu peux faire et c'est trop... Bon, moi personnellement j'ai compris que je détestais faire le tracteur, mais je l'ai fait beaucoup. Et au début, ça m'a fait sentir super, super puissante en fait, de faire ça. Et ensuite, on passe à autre chose et on se dit, en fait, j'en ai trop marre de passer ce tracteur. Donc. Et là, il y avait un vrai collectif, assez grand, d'une dizaine de personnes. L'idée, c'était de travailler que 2 jours par semaine pour pouvoir faire plein d'autres choses et... ou ne rien faire. Enfin, il y avait vraiment un truc genre, ok, on va faire ça que 2 fois par semaine. Et il y avait des personnes queer et en particulier, il y avait... une personne qui m'a beaucoup marquée quand je suis arrivée, une meuf trans qui avait énormément de connaissances en maraîchage, qui était hyper technique et avec laquelle j'avais trop envie d'apprendre plein de choses. Et du coup, ça m'a tout de suite beaucoup parlé, ce projet, avec toutes ces personnes. Il y avait aussi un engagement au niveau du véganisme. Il y avait l'idée de faire un jardin vegan. C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Et pareil, cette meuf était hyper pointue là-dedans, avait un engagement hyper fort là-dedans. Alors, je ne sais pas pourquoi le projet s'était appelé Jardin des Maraîchers à la base, mais c'est marrant parce que du coup, l'écoquartier qui est censé être construit sur la zone s'appelle l'écocité des maraîchers. Et donc, c'est peut-être par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a eu un moment une équipe, et ça, c'était avant que j'arrive, peut-être 2 ans avant que j'arrive, où il n'y a eu que des meufs dans l'équipe. Et du coup, elles ont décidé de renommer ça Jardin des Maraîchères. Mais en fait, il y a une petite variation, c'est que quand on est arrivé, quand il y a une nouvelle équipe qui s'est formée, donc ça c'était fin 2020-2021, on a décidé de renommer encore, et maintenant c'est Jardin des Maraîchères, mais avec l'écriture inclusive. Donc le jardin est devenu non-binaire, quoi. Et c'était important pour nous de pas forcément poser ce truc de féminisation dans le projet, mais de garder ce truc inclusif, parce qu'il y avait des personnes non-binaires. Et ça rejoint le truc de... On n'a pas posé de mixité choisie, parce que pour nous, c'est hyper important, en fait, cet aspect d'ouverture. C'est un peu à l'image des lentilles, en fait. C'est un espace très, très ouvert. C'est pas une communauté, vraiment. N'importe qui utilise les lentilles, même juste pour se balader, est une personne usagère des lentilles. Et le Jardin des Maraîchères, c'est un choix qu'on renouvelle chaque année, en fait. De, on veut pouvoir accueillir n'importe qui, bah, même si c'est un mec si c'est hétéro blanc, il va peut-être avoir sa place ici, mais ça dépend peut-être comment, enfin, il va se comporter, parce qu'on a aussi sûrement plus de méfiance par rapport à ces personnes-là. Mais bah, techniquement, c'est possible, et on veut pas du tout se fermer aux personnes qui pourraient venir nous aider. C'est vrai qu'on privilégie, disons qu'il y a une sorte de quand même de priorisation, parce qu'on va communiquer dans des réseaux queer. Par exemple, on est sur le site des ruralités queer, on est sur la carte parce qu'on peut privilégier d'accueillir des personnes queer. En fait, quand les gens nous voient, ils captent un peu quand même l'ambiance. Donc il y a une sorte de peut-être sélection un peu voilà, organique qui se fait et qui fait que bah, maintenant quand je regarde l'équipe, c'est vrai que c'est le cas, quoi, mais c'était pas une décision à la base.
Eh ben, moi, c'est Duchesse. Je suis une personne blanche qui est issue d'un milieu aisé. Je suis arrivé aux Lentilles il y a à peu près 3 ans pour finir mon master en architecture du paysage que j'ai fait en Belgique. Et aussi parce que j'avais mon cousin. Il m'avait montré le quartier il y a quelques années. Moi, ça m'intéressait trop de ouf de voir en fait, en vrai, des gens qui plutôt ménagent que aménagent d'ailleurs leur lieu de formation, de travail, de vie, quoi, de culture, d'un petit potager, d'un lopin de terre ou alors... d'un espace de maraîchage, d'un espace d'habitation, d'un espace de grande culture, de BMX et tout. Je me dis, ah, mais c'est génial, ça renverse complètement en fait tout ce que j'ai appris. Et c'est moi aussi vers ce à quoi j'aspirais en fait, de voir comment ça se fait, l'autogestion sur place, comment en fait ce lieu de 8 hectares qui est à 20 minutes du centre-ville, les gens s'y entremêlent en fonction de leurs besoins, leurs envies, leur grande vision de la révolution, pas du tout, souvent bien sûr, plutôt quelque chose de dilué, diffus dans les vies quotidiennes de tous. Et du coup, c'est là où un peu j'ai capté que un peu mieux qui j'étais, de réaliser les privilèges que j'avais et habiter avec des personnes touareg et aussi, et pas que, ça fait quelques mois maintenant qu'il y a tout un bail de réflexion autour de moi et la suprématie blanche qui a commencé sur les lentilles. Et moi, j'avais trop envie de venir mettre un doigt, un pied, puis une jambe, une omoplate, et puis tout mon corps est arrivé sur le quartier des lentilles, grâce aussi en fait aux liens quoi, affectifs. Et heureusement, et c'est ça qui fait que je suis toujours là. À un moment donné, j'ai failli partir parce que ces liens étaient ténus. Et puis au final, c'est grâce aux personnes queer que je suis resté aussi. Et puis mon cousin. Ouais, bien sûr. Il y a des moments qui ont été pas faciles dans mon arrivée ici. Moi, je suis arrivé avec une lecture critique de l'aménageur, de ce qui se fait d'habitude dans l'aménagement du territoire. Des espaces disciplinés, des espaces qui doivent être tirés au cordeau. C'est aussi toute une esthétique, en fait, des parcs urbains, en fait, maîtrisés. Il faut pas qu'il y ait des bosquets, en fait, trop froufrou, trop grossiers, trop exubérants. Sinon, on va plus pouvoir maîtriser ce qui se passe dans le parc. Il va y avoir aussi des choses qui sont compréhensibles en termes de harcèlement dans la rue et par extension dans les parcs. Mais il y a du coup aussi des choses dont on perd. Et parfois, en fait, surtout, c'est plus un élément qui devient sujet à contrôle que vraiment de défense des droits des femmes, en fait. Quand, par exemple, on pourrait organiser ça autrement, en fait, que par en fait, le défrichement et la bétonisation des friches dans les milieux urbains.
Alors, je m'appelle Max et je suis aux Lentilles depuis 2014. Comment je suis arrivé aux Lentilles ? Moi, j'étais avec un crew de copines que j'ai rencontrées, je me suis un peu politisé et j'étais très anarchiste depuis toujours, mais... Et je connaissais les tanneries parce que j'allais faire des soirées là-bas. Et en fait, un jour, j'ai découvert que quand même les anarchistes aux tanneries, ils portaient des trucs, je sais pas, anti-homophobie. Bon, ça, c'était il y a 15 ans, hein. Du coup, on n'était pas au même endroit. Mais ils portaient des trucs anti-homophobie, tout ça. J'étais absolument pas féministe, mais par contre, j'étais déjà queer. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est trop sympa. Et antispéciste aussi, et j'étais antispéciste. Et du coup, j'ai commencé à traîner aux tanneries et là, j'ai rencontré des copines et j'ai rencontré le féminisme aussi, qui m'a été transmis par des mexicettes. Mais bon, ben voilà, c'était quand même ça. Et on a voulu ouvrir un squat. On a découvert qu'en bordure des lentières, qui n'étaient pas encore les lentières du coup, mais il y avait une maison juste à côté où la meuf venait de se faire exproprier. Et du coup, on est allé l'ouvrir et voilà, c'est la maison où j'habite encore maintenant. En fait, ici, moi, c'est sûr, les lentières, ce qui m'a mis plein de paillettes dans les yeux, c'est... En fait, tu pouvais tout faire. Il y avait forcément quelqu'un sur la friche, je sais pas où, qui avait déjà fait de la photo et du coup qui pouvait te passer du matos pour développer ta photo, ou alors qui soudait, ou alors qui faisait de la construction de vélo, ou alors qui faisait du maraîchage, tout ça. Ça passe beaucoup par l'accessibilité à faire des trucs et pas demander à des gens de le faire pour toi. Ben, moi, j'habite dans une maison à la base définie en 100 mexis. De fait, c'était des copines hétéra qui étaient là et il y avait aucune meuf. À part nous, il y avait genre deux meufs sur la friche. C'était super... ouais, intense. C'était un milieu très, très masculin. Après... je sais pas, il y a plein de choses qui étaient chouettes aussi, qui sont le DIY, la culture autonome, quoi, pour lequel j'avais plein d'amour, mais c'était hyper intense. Et au fur et à mesure, les meufs appellent les meufs, hein, y avait un mouvement un peu féministe, enfin un mouvement féministe, non mais du calme, il y avait des meufs qui étaient là, féministes, il y a eu un espèce d'appel comme ça qui a pris mais des années. Et je pense à un moment, mais comme dans le monde entier, la culture féministe qui a un peu émergé, quoi. Là, il y a commencé à avoir des queers, je sais pas, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, quoi. Mais comme la visibilité, je sais pas, LGBT ou féministe en général, quoi. Il y a commencé à avoir des queers et je pense que c'est pas trop passé par les lentières. C'est beaucoup passé à Dijon par les tanneries. C'est un lieu autonome, anarchiste, un espace autogéré qui est à Dijon et qui existe depuis 98 et qui est légal depuis 2000, peut-être 2002, quoi. Et voilà, il y a des gens qui habitent dedans, mais c'est beaucoup un squat d'activité et une salle de concert aussi. Et là, il y a, après MeToo, après nous toutes, il y a des meufs qui sont arrivées et qui étaient un peu, qui étaient très féministes et qu'on a commencé à rencontrer, quoi. Qui voulaient faire des manifs, c'est sûr, pas comme nous on voulait les faire, mais je sais pas, on s'est rencontrés et du coup elles ont un peu habité un peu plus de radicalité, on va dire. Et ça a fait un espèce, je sais pas, d'appel d'air, de rencontre de ouf, quoi. Et du coup, maintenant, c'est sûr, il y a pas mal de queer, non mais par rapport à c'est quoi ma représentation, tu vois. Et ça change plein de choses dans nos modes d'organisation. Ça change, mais je sais pas, ça change plein de choses à comment on arrive à discuter en assemblée. Ça change plein de choses de comment on arrive à s'écouter, de c'est quoi l'empathie. Et du coup, qu'il y ait des meufs, ça change comment on construit nos assemblées, ouais, comment on s'écoute, comment on arrive à, je sais pas, donner du regard à plein de gens aux lentières, par exemple, qui sont ultra précaires, à plein de, je sais pas, à plein d'un panel de reconnaissance des oppressions un peu très très large. Et ça existe grâce au féminisme, grâce au queer. Je sais pas, on a de beaucoup plus de bienveillance qu'avant, ou beaucoup plus de d'intelligence collective. Le principal truc qui change, c'est la transmission du pouvoir. J'ai l'impression que en AG avant, il y avait des mecs qui donnaient du regard à d'autres mecs. Et quand je dis des mecs, c'est des mecs cis-hêtres qui donnaient du regard à d'autres mecs cis-hêtres et qui étaient tout seuls. Ça veut dire qu'il y avait des idées brillantes qu'ils avaient, dont ils avaient soi-disant accouché dans la nuit, mais qui étaient absolument pas liées à une forme, oui, d'intelligence collective, absolument pas liées à une forme de, je sais pas, de d'écoute d'autres gens. Et ça, du coup, ça fait que toi t'es là et que t'as juste l'impression qu'il y a des gens brillants qui sont devant toi et que toi t'es jamais aussi sûr que eux, t'es jamais aussi je sais pas carré que oui, t'as pas accouché d'une idée brillante dans la nuit, voilà. Et du coup là il y a des meufs qui arrivent là-dedans ou des gens queer et du coup plus doux de cœur, puisque je sais pas, c'est la culture, elle est comme ça. Et du coup, je sais pas, ça fait que tu te rends compte que en fait, si tu comprends rien à l'électricité depuis 10 ans ou tu fais de l'électricité avec Jean-Marc, et ben en fait, c'est parce qu'il t'a rien transmis. Et en fait, si là t'es avec machine et que en fait elle te dit mais oui c'est super, mais regarde non mais c'est comme ça qu'il faut faire, et ben là ça fait que t'as, je sais pas, t'as de la prise dessus, t'as de la légitimité. Et en assemblée, c'est un peu le même endroit, quoi. En fait, ben oui, si machine, elle dit quelque chose, que toi, tu dis, ah oui, on pourrait faire ça, mais plutôt comme ça, et ainsi de suite. En fait, oui, on construit des choses ensemble. Et du coup, tu te sens de la légitimité, tu te sens responsable de la situation, tu te sens du pouvoir, tu te sens avec les gens. Et ça, le côté individualiste, je sais pas, il est fort... Il s'est fort apaisé depuis qu'il y a plus de meufs, plus de queer ici, ouais.
Je suis Jean-Yves, je suis au JDM depuis septembre 2023. J'y suis arrivé parce que j'ai commencé il y a un an à fréquenter le milieu autonome, d'abord aux tanneries, mais très vite aux lentillères. Où c'est là où je me sens le mieux. Et ben c'est un long parcours avant, alors je ne sais pas ce que je vais raconter, parce que comme j'ai 68 ans, tu peux t'imaginer que j'ai fait pas mal de choses. Mais je dirais en un seul mot, j'ai jamais été près de là où je suis aujourd'hui. C'est pour moi encore une grande surprise de me retrouver dans un milieu qui, il y a quelques années, était complètement étranger. J'y avais pas du tout ma place. Le quartier des Lentillères... La culture de la terre en pleine ville, ça peut être que porté par des gens qui voient tout autrement, parce que sinon c'est absurde. Pourquoi cultiver dans des conditions qui sont forcément pas faciles et susciter aussi de l'hostilité, c'est qu'on porte quelque chose, quoi. C'était vraiment un lieu où je pouvais nouer des relations et me sentir accueilli, et j'en avais besoin parce que j'étais très très isolé. Et ça, je tiens à le dire, c'est vraiment très, très riche pour moi comment des personnes qui, en moyenne, ont plus de 40 ans de moins que moi, sont ouvertes à ma présence et à mes limites aussi, physiques en particulier. Et puis aussi au fait que quelquefois, que ce soit pour le maraîchage ou autre chose, je leur dis « traduisez, s'il vous plaît ». Je comprends pas les mots que vous utilisez. Pour moi, c'est une question qui est très très importante pour moi. Moi, ce que j'aimerais justement, c'est que tisser beaucoup plus de liens entre ce que je vais appeler le monde normal et les espaces autonomes. Parce que j'ai un pied dans chaque, quoi. Et que je vais pas disparaître dans le monde autonome. Ça a plus de sens pour moi au point où j'en suis. Et malheureusement, ils le voient pas comme ça. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'incompréhension et d'hostilité. Et puis, peut-être une tendance aussi de la part des personnes du mouvement autonome. C'est peut-être pas conscient, mais à s'isoler. C'est pas juste au sens politique. Mais en même temps, si je suis entré dans ces milieux-là, c'est parce que j'étais pas bien dans le monde d'avant. Mais ça renvoie certainement autant à ma difficulté que j'ai trimballée pendant, on va dire, entre l'âge de 20 ans et ces dernières années, à comprendre qui j'étais moi et à pas me fabriquer une identité factice sans m'en rendre compte.
Projet de réalisation de cantine juste à côté, et moi ça me bottait trop. La cuisine, c'est un truc, c'est un leg que m'a donné ma mère, et c'est comme ça aussi que je me suis aussi projeté ici. Je me dis en fait, c'est quelque chose que j'aspire à faire dans ma vie de tous les jours et qui ici est vivant, et je me vois en fait à travers ce collectif de cantine qui donne des repas à prix libre tous les mercredis et tous les vendredis depuis 6 mois, que moi, je peux trouver ma place. Ça a été dur aussi parce que la construction, c'est pas trop mon truc. La construction du réfectoire, ça a été un moment aussi pour réaliser que sur le quartier libre des Lantières, ce qui est valorisé beaucoup plus, c'est les savoir-faire techniques. Et c'est chouette, ce renversement aussi des positions de pouvoir. C'est plus le savoir en termes de la connaissance scientifique, c'est... plutôt la connaissance pratique.
Au Lantières, en vrai, le collectif, il passe beaucoup par faire des trucs ensemble. Il n'y a pas des gens qui se retrouvent pour écrire des trucs. Il y a beaucoup, on se retrouve pour faire des trucs matériels, faire du maraîchage, faire de la construction, faire de la mécanique, je sais pas, faire plein de choses, mais beaucoup de choses matérielles. Ça, je pense, ça, ouais, c'est encore moins accessible à des meufs ou des queers que les tanneries où tu peux aller organiser des soirées, où tu peux aller te retrouver avec ton crew parce que t'as besoin d'un espace, d'une pièce pour discuter, voilà. Du coup, l'espèce de mouvement féministe qui est arrivé, il s'est plus construit aux tanneries, quoi. Et après, vu que les Lantières, les tanneries sont très proches, de fait, il y a eu des débordements de ça qui sont arrivés jusqu'aux Lantières, et c'est super. Mais de fait, je pense encore maintenant, c'est plus accessible d'être aux tanneries si t'es une personne queer que de venir aux Lantières. À part, je pense, pour nos chantiers, qui est le moment où ça devient plus accessible. Parce que, oui, on est 4 et que c'est nous. Et du coup, nos chantiers... à la base, notre idée, c'était... On se disait, OK, on va faire des chantiers écoles pour être... absolument dans la transmission et tout ça, mais finalement en fait on peut pas exactement faire ça parce que bien sûr on doit avancer sur ce chantier et que ça fait déjà un paquet de temps qu'on y est. Du coup on fait des chantiers où on essaye de transmettre le plus possible. Et oui, ça s'est passé à plein de moments, pas la mixité choisie sans mec 6 et après sans mec 6-7. Parce que, en fait, nos copines qui n'ont jamais tenu une visseuse, arriver dans un chantier avec plein de mecs 6-7 qui sont extrêmement sûrs d'eux et qui veulent rien transmettre, ça fait qu'elles savent rien faire. Et arriver ici et nous avoir nous, la légitimité, elle nous a pas été donnée depuis toujours. Du coup, on s'est dit on veut habiliter des copines à pouvoir se sentir de construire des choses, à pouvoir se sentir d'avoir des visions en 3D, pouvoir se sentir de projeter de la logique matérielle, quoi. Et ça, ça a marché grave. Il y a plein de moments où c'est des chantiers qui font vraiment du bien et qui donnent un peu de la cohésion au quartier. Ça donne plein de choses, en tout cas à nous, déjà de sentir du soutien, de rencontrer des gens et puis d'avancer de ouf sur un projet qui est si intense et où des fois on n'en voit pas le bout. La maison commune, elle est en bordure des Lantières. Et c'est du coup une charpente qui fait 100... au début on disait 160, puis finalement je crois que plutôt que c'est 130 mètres carrés au sol, qui a un étage qui est en forme un peu arquée, en forme de C, si tu regardes du ciel, quoi. C'est une charpente traditionnelle, ça veut dire que tout est construit avec des assemblages, des découpes dans le bois et le bois qui s'assemble, et des chevilles qui sont mises au milieu. C'est juste un petit rondin de bois qui tient tout cet assemblage. Nous, pour la construire ou pour la lever, c'est passé par plein d'étapes qui étaient un peu inaccessibles, c'est-à-dire aller chercher le bois dans une forêt, le débarder avec des chevaux, trouver une scie qui peut couper des énormes morceaux de bois, faire des poutres, quoi, faire à partir d'un arbre, faire une poutre, faire ça, trouver une dalle très très grande qu'on a squatté à un hangar derrière les tanneries pour qu'ils puissent tracer les dessins au sol, parce que la charpente, ça se fait comme ça, tu dois tout tracer au sol et après assembler. Et après, la maison, là, maintenant, elle a un toit, elle a une dalle et elle a un peu des murs. Des murs jusqu'à l'étage, quoi. Tout le rez-de-chaussée a des murs. Pour l'instant, tu peux pas être dedans l'hiver et chauffer l'espace parce qu'il est trop ouvert. Mais par contre, on s'en rapproche. Et là, de plus en plus, on arrive à faire des assemblées dedans. Il y a des concerts qui sont dedans. C'est ça l'idée de la maison commune. Avoir un espace où les gens y pourraient venir et se servir des ressources qu'il y a au Lentière, mais sans avoir forcément à passer par chez des individus, quoi.
Ce qui m'émerveille, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe dans la pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas un salon où on discute, où on refait le monde. Voilà, c'est le contraire. Alors on discute pour savoir comment on va travailler. Et les personnes ont accumulé des savoirs que moi, je ne partage pas beaucoup, mais des savoirs, je vais dire, autodidactes, hein, parce que personne au JDM n'a jamais fait une école de maraîchage. C'est ça que je trouve intéressant, c'est la priorité à la pratique. On ne parle pas de refaire le monde, on le refait, on parle pour ça, mais on le refait d'abord, essentiellement. Enfin, on le refait un petit bout, quoi. On fait quelque chose de différent, de nouveau, de contradictoire avec ce qui est normal, quoi. Parce que ce n'est pas n'importe quelle pratique écologique. Faire une activité économique sans argent, ou pratiquement sans argent, C'est déjà incroyable. Ça m'étonne énormément comment ce sens de la débrouille, de l'inventivité, d'aller chercher de l'aide. Ouais, c'est vraiment mettre les mains à la pâte tout en pensant ce qu'on fait. C'est ça qui est important. C'est la pratique. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui pensent pas. Ils sont bien obligés de penser puisqu'ils inventent. Mais c'est d'abord pour faire. C'est de faire plein de choses à la main. Bon, j'ai déjà vu d'autres maraîchers écologiques, puisque je fréquente les AMAP, et j'ai été leur donner des coups de main. Et vraiment, c'est des choix de moyens, d'autres diront archaïques, quoi. Pratiquement pas de mécanisation. Côté vegan, j'ai déjà dit, donc qui interdit des choses qui sont pourtant très naturelles, comme le fumier. L'usage de récup de tas de choses, de matériel qu'on leur a fourni, qui sont de seconde main. Et à côté de ça, tout le temps passé à s'organiser, à programmer, à planifier, parce que c'est très pensé. Et en même temps, des choses aussi hyper technologiques, c'est-à-dire qu'au fond, plein de choses, ils les apprennent par Internet, quoi. Quand ils ont un problème, je les vois plus aller vers leur smartphone que vers des bouquins. Ou alors aller vers des gens pour leur poser des questions. Après, ça reste précaire. Et puis je pense qu'effectivement, vu de l'extérieur, ça peut paraître très amateur ce qu'ils font. Mais non, amateur, bon, moi c'est un mot positif, quoi. Ça veut dire qu'on aime ce qu'on fait.
Par rapport à la charge de travail, disons que c'est parti de ce principe-là, que ce serait 2 jours par semaine, pas plus, et qu'ensuite tout le reste est adapté, quoi. On ne fait pas en fonction de quel est le niveau de production qu'on veut, on fait vraiment en fonction de qu'est-ce qu'on peut donner dans ce projet, et ensuite le reste s'adaptera. Il faut savoir que ce n'est pas du coup un projet marchand, c'est un projet, le but c'est de produire des légumes pour un marché qu'on tient pendant 5 mois de l'année à prix libre. Et donc c'est pour le voisinage, pour les gens qui ont besoin à Dijon d'avoir des légumes bio, même si bon, on n'a pas le label, etc. Mais d'avoir des légumes de qualité à prix libre, que ça soit accessible. C'est aussi des légumes pour les luttes, etc. Bon, on n'a pas, disons, on n'a pas du tout la même économie qu'un maraîcher ou une maraîchère professionnelle. Et ce truc de 2 jours, bah, du coup, on fait en fonction de ça, quoi. Et ça nous permet de à la fois pas se tuer physiquement, de pouvoir participer à plein de trucs qui se passent au Lentière et de pas être trop spécialisé dans une tâche. C'est pas qu'on ait quelque chose contre la spécialisation au maximum, mais c'est qu'on a tous des centres d'intérêt très divers. Enfin, moi, en tout cas, c'est clair que ça m'a toujours beaucoup pesé de me dire je vais passer 5 jours par semaine à faire la même chose. C'est vraiment un truc que je déteste. Du coup, ça, c'est... Et je pense qu'il y a plein de gens ici qui ont pas du tout envie de faire ça. Et aussi du temps pour nous et pour profiter d'une vie sans travailler. Voilà. Et je trouve que c'est un des trucs les plus anticapitalistes de ce projet, presque, de se dire on va faire du maraîchage que 2 jours par semaine. pour rajouter sur la charge de travail, parce qu'à un moment donné, on a commencé à être plus dans le collectif. On est passé de 5 à 10. Et on s'est dit, ah, mais du coup, qu'est-ce qu'on préfère entre produire plus ou prendre plus de vacances? Et on a unanimement décidé de dire, on veut plus de vacances. Parce que, ouais, c'était comme ça, quoi. Et la productivité, c'est une valeur importante pour nous. Même on ne l'appelle pas vraiment productivité, on a décidé de l'appeler abondance. L'abondance, c'est important pour nous, mais c'est toujours à... On est toujours à faire des arbitrages, en fait. On se questionne beaucoup sur la norme, en fait, et de faire des choses en dehors des normes. Et qu'on est toujours tenté, surtout avec un projet de maraîchage, de faire un truc, ok, on commence à 8h du mat, on finit à 18h, on est organisé de telle façon, blablabla, ça roule. Enfin, c'est un projet très exigeant. Je pense qu'il y a plein de trucs de validisme dans ce secteur. Même, en fait... Franchement, même les outils, quoi. Le tracteur, il y a certains outils qu'on doit atteler au tracteur, mais vraiment, c'est presque impossible, en fait. Il faut tellement de force physique pour les atteler, genre, c'est tellement mal foutu. Si t'es pas une personne hyper musclée, que tu peux pas utiliser ton tracteur, quoi. C'est hostile, quoi. C'est hostile à toutes les personnes qui sont pas dans une sorte de norme de muscles. Et même les meufs maraîchères que j'ai rencontrées, bah, elles sont quand même un peu dans cette vibe-là, quoi. Ultra, il faut être très endurant et genre, on s'arrête pas. Et du coup, parfois, c'est difficile de se dire, là, ok, je me sens un peu mal ce matin, je vais pas y aller. Et en fait, on a eu des discussions trop intéressantes entre nous sur nos rythmes, chacun, chacune, et notre santé mentale. Et ben là, du coup, je parle pas tellement même des trucs physiques, mais aussi même de comment il y a certains jours où en fait on peut pas venir au jardin. Il y a des gens qui en fait font des insomnies toutes les nuits. Donc en fait, c'est pas possible de se pointer à 9h du mat pour le point du matin où on décide de tout. Et comme on a vraiment la volonté que tout le monde, enfin, qu'il y ait le moins possible de dynamique de pouvoir dans le groupe, il faut que tout le monde puisse venir à ces réunions. Enfin, il faut, ça marche pas si on exclut d'office tous les gens qui peuvent pas être là à 9h du mat. Je me souviens que finalement, au cours des discussions, on s'est dit en fait, il faut qu'on fasse un point, notre point en début d'après-midi. Et ça, c'était une petite révolution parce que ça faisait 8 ans que le JDM, il y avait le point du matin où on se divise les tâches, on regarde ce qu'il y a à faire et on prend les décisions pour la journée. Et on s'est dit, c'est sûr que tout le monde va venir au déjeuner du midi. Ça, c'est le moment où il y a le plus de gens en général. Et du coup, on va faire le point juste après. Et on va avoir aussi une attention, c'est plus qu'au rythme, mais même à une personnalité de chacun. Genre, qu'est-ce que les gens aiment faire? Qu'est-ce que les gens n'aiment pas faire? Qu'est-ce que ça te coûte de faire? Qu'est-ce que ça ne te coûte pas de faire? Parce que, on est hyper différents. Et par exemple, il y a des gens qui... détestent les tâches répétitives sur une après-midi où ça va vraiment les saouler. Et il y a des gens qui adorent faire ça. Et du coup, on s'est créé une sorte de tableau avec ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et comme ça, quand on a une tâche qu'on doit faire, on se dit, ok, en fait, je peux demander à cette personne parce qu'elle va kiffer. Mais je vais peut-être éviter de demander à cette personne parce que ça lui coûte beaucoup. Et pour moi, c'était vraiment... ça m'a ouvert plein de choses, plein d'imaginaires, en fait, de... Ah ouais, mais en fait... Avec un projet comme le maraîchage, tu peux vraiment être le nez dans le guidon à faire juste... c'est toute une problématique, en fait, de soin des personnes et de se dire, en fait, c'est pas parce que tu galères dans la vie à te lever tôt que tu ne peux pas faire de maraîchage, ou c'est pas parce que tu peux pas être là pendant 3 mois de l'année que tu peux pas faire de maraîchage, ou tu peux pas participer à un projet collectif. Et j'ai trouvé ça trop fort qu'on priorise ça plutôt que la productivité. Mais en fait, c'est ce qui est fou, c'est que les deux se rejoignent. Parce que en fait, quand tout le monde se sent bien et tout le monde se sent responsable du jardin et se sent qu'il peut faire les choses à son rythme, etc., ça marche beaucoup mieux, quoi. En fait, on s'est souvent dit, en fait, si on était resté sur notre truc de bourrin, là, qu'on avait peut-être un peu au début, sans avoir toutes ces discussions, le collectif aurait sûrement éclaté. Parce qu'il y a plein de gens qui n'auraient pas suivi, en fait, ce rythme et ses exigences et... Et après, t'as des dynamiques où les gens se sentent continuellement coupables, en fait, parce qu'ils n'atteignent pas le standard que c'est censé être. Et nous, on a eu une grosse discussion sur la culpabilité en se disant, en fait, on voudrait jamais que ce soit un moteur de pourquoi on vient au jardin. Ça, c'est vraiment trop de la merde. faut que les gens viennent soit par plaisir, soit parce qu'ils se sentent responsables de quelque chose. Et ça m'a trop rassurée sur le fait qu'on pouvait faire du maraîchage en collectif, ce qui est un truc que pas grand monde fait en fait. C'est... Même des gens nous disent que c'est impossible de faire cette activité en collectif parce qu'il y a trop d'avis différents, il y a trop de machins. Et nous maintenant, pour que tout le monde puisse se sentir responsable par exemple, on s'est divisé le jardin en différents blocs. Et selon les familles de légumes, et il y a une personne du collectif qui est responsable d'un bloc, qu'elle gère à sa façon, qu'elle prend toutes les décisions, et les autres interviennent pas trop dans les décisions que la personne a prises. Et voilà, c'était... J'adore. J'adore ce projet. Ça me donne plein d'espoir de comment on s'organise ensemble, qui est une de mes grosses préoccupations.
Quand quelqu'un vient ou vient pas... Je ne sais pas si ça se sait parfois, mais moi, je ne me sens pas obligé. Au début, j'avais du mal à dire bah, « aujourd'hui, je ne viens pas ». Enfin, tel lundi ou tel jeudi, je ne viens pas. Je n'ai pas de compte à rendre. Mais il y a aussi l'idée, on fait ce qu'on se sent capable, ce qu'on a envie de faire. C'est tellement différent de ce que... Bon, alors moi, j'ai jamais travaillé dans l'agriculture, mais je suis persuadé que c'est très différent de ce qu'on voit ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, c'est très organisé, mais dans une organisation hyper souple, très douce. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fatigant, hein, mais je veux dire que c'est au niveau humain que c'est très doux. Physiquement, ça peut être dur, je supporte mal le froid humide, se baisser, se relever, je me fatigue plus vite que d'autres, mais je ne suis pas le seul. Hein. Cette richesse humaine, ça vaut... ça compense largement les inconforts physiques. C'est pour moi le jardin des maraîchères. Alors j'ai du mal à isoler le jardin des maraîchères dans le quartier des Lentillères, hein, parce que on se croise sans arrêt. C'est au croisement de plein de choses, d'espace queer, mais plein d'autres. Celui que je connais le plus mal et qui m'intrigue, mais c'est aussi l'accueil des exilés. Oui, bien sûr, pour moi, c'est ça qui est fort là-dedans, même si c'est pas posé comme ça, mais qu'il y a plein de choses qui s'y font, aussi d'autres façons de penser la fête, d'autres façons de penser les communs, il y a énormément de choses, et ça m'intéresse parce qu'autrefois, pour moi, tout était au contraire complètement séparé.
Hétérotopie, donc c'est un concept de Fèvre, c'est un architecte, si je dis pas de conneries, qui définit les hétérotopies en opposition à des espaces qui sont intégrés à une structure spatiale. Genre, donc dans une ville, on va prendre un exemple, dans une ville, les espaces qui sont des hétérotopies, c'est des espaces qui induisent une totale opposition à tout ce qui est structuré. Donc le travail est structuré au logement, qui est structuré au transport, qui est structuré aux zones de loisirs. Ça fonctionne ensemble. Et du coup, l'hétérotopie, c'est un... Moi, je le retrouve aussi sur les Lentillères, parce que voilà, au niveau politique, au niveau spatial, c'est tous les usages sont entremêlés. À la fois, quand on revient sur des choses un peu de catégorisation de l'espace, c'est à la fois un espace où on se forme, un espace de loisirs, un espace où on habite, un espace où on fait des rituels, c'est un espace où on célèbre, c'est un espace où on rêve, c'est un espace où on entretient, on prend soin. Et tout ça s'entremêle. Il n'y a pas genre des cases où là, c'est l'habitat, comme dans le centre-ville de Dijon, ou tout autour. Tu vois, c'est pas morcelé, c'est tout ensemble, c'est tissé comme ça. Les fils eux-mêmes sont bicolores, tricolores, tu vois ce que je veux dire dans le tissage. J'ai beaucoup lu, si je dis pas de conneries, c'est Matthew Gandhi qui a écrit Écologie queer, nature, sexualité, hétérotopie, sur un cas similaire au Lentière qui est Abney Park à Londres, où il fait le lien entre cet espace qui est un ancien cimetière abandonné de la banlieue nord de Londres et la théorie queer. dans le sens où, comme je le disais plus tôt, c'est un espace donc, qui a été abandonné au XXe siècle. C'est un ancien cimetière gothique qui s'est ensauvagé, où il y a une faune, une flore qui s'y est installée, ou plutôt qui a aussi pu trouver un lieu où vivre. On a pu laisser une certaine liberté à ces espèces-là, ces êtres vivants, et du coup a créé tout un autre espace dans la ville où proliférer et vivre. Et aussi notamment des humains et des humaines qui n'avaient pas la possibilité, par exemple, de se rencontrer ailleurs. Donc notamment la communauté étrangère homosexuelle. C'est devenu une zone de cruising pour la communauté là-bas. Et c'est connu en tant que tel. Du coup, c'est un espace où on baise, où on va promener son chien, et des naturalistes qui font des inventaires faunistiques et floristiques, qui se sont alliés ensemble et qui ont défendu cette approche entremêlée d'un même espace. L'esthétique, elle est complètement queer dans le sens où elle échappe en fait à toutes les machines qui voudraient rendre normal et normé cet espace qu'est Abney Park. Donc c'est aussi des espèces qui ont en fait des préjugés. En fait, je pense à la ronce, je pense à la renouée du Japon, je pense à d'autres espèces qui sont vues comme nuisibles, qui sont décrites comme des mauvaises herbes. Et pour moi, ça fait le sens avec tout ce carcan idéologique de normes que les personnes queer se farcissent en fait de la part de ce que Mathieu Gandhi appelle une vision puritaine et technopastorale de l'aménagement du territoire, qui transposé au corps queer, a des conséquences similaires. Donc il y a ce truc de contrôle des réalités en fait par ce qui devrait exister, ce qui devrait être bon. D'exister, ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Et donc là, sur les lentières, il y a les lentes, l'arbre à papillon, le buddleia, parce que en tant qu'aménageur, on a appris à les voir comme menace. Donc ça fait oui, oui, dans la tête, quoi. Et en fait, on n'apprend pas à voir, selon moi, pourquoi ici c'est intéressant de garder ces espèces-là. Pourquoi il serait bon en fait d'y habiter et de vivre l'espace pour en fait juste se rendre compte que ces espaces permettent de créer une nouvelle couche d'humus. Hein. Il ne faut pas forcément y vivre longtemps pour le remarquer d'ailleurs, mais que les élantes ont cette formidable capacité à se reproduire très vite et que sur un terrain qui a été bétonné, c'est une formidable opportunité pour recréer un sol en fait. Année après année. Et ça, la mairie, elle veut bien sûr pas le voir et elle veut que ça sache le moins possible parce qu'elle, elle a prévu de construire des logements parce qu'elle voit les espaces qu'à travers le prisme de la relance durable du logement. Et donc, il y a tout ce délire autour des écoquartiers en France. Et ça, ce serait donc plus important que des espaces qui témoignent d'une désurbanisation, d'un réensauvagement suite à une bétonisation, une imperméabilisation des sols qu'on pensait en fait irréversible. Et moi, ce que je réalise en habitant ici, c'est que effectivement, il y a eu un impact. Il y avait avant, c'était des jardins en fait, des potagers ici. Faut s'imaginer, donc il y a eu des potagers dans les années 70. Et ça, là, la mairie, elle veut pas le voir non plus. Hein. Elle Mordicus, elle dit que il n'y en avait pas dans les années 70, dans le sens, c'était pas, c'était construit depuis les années 1850. Mais mon curé. En fait, il y avait des potagers après, donc ça a été détruit. Il y a eu une boucherie et un garage automobile qui se sont installés. Ça a eu un impact sur la frange est. Ça a été abandonné, comme ça, laissé tel quel. Ça a été remué à la machine et c'était un tas de gravats. Et puis, il y a une personne, quand les quartiers s'est installé en 2010-2011, Quelques années après, il y a un type qui adore faire du BMX et il a vu dans ce tas de gravats un BMX. Et année après année, il a déplacé les moellons, moellon par moellon, il en a fait un BMX, il a creusé. La mairie voudrait bien juste y voir un tas de cailloux parce que c'est ce qu'elle a laissé en fait. Mais en fait, c'est plus un tas de cailloux. C'est ça qui est dingue, hein. C'est que la mairie, elle met des stéréotypes pour bien sûr en fait rabaisser ce que les usagers et usagères du quartier font. Mais en fait, la vérité, c'est que maintenant, de ce BMX, il y a d'autres choses qui peuvent aussi émerger. Enfin, c'est un espace qui est en transformation perpétuelle. Donc une fois de plus, moi, comment je vis ma pédérité, c'est aussi une pédérité qui se transforme. Ça l'est d'autant plus parce qu'on a dans notre histoire de pédale des moments où on a pu être donc dans le placard et puis on a eu un passé jeté aux oubliettes à certains endroits. C'est aussi propre en fait aux espaces autogestionnaires et aux espaces en fait tout simplement c'est des expérimentations, c'est un bac à sable. Pour moi, ben c'est là où je trouve que les milieux queer font du bien aux milieux autogestionnaires. C'est des choses qui se retrouvent dans les milieux queer et dans la pédérité. Et on est familier avec ça, la transformation perpétuelle. Voilà, c'est ça.
Ici, je me suis beaucoup plus sentie par rapport à avant d'adopter, par exemple, accepter plus mon côté masculin. Enfin, je ne sais pas si c'est de faire disparaître un peu plus mon genre d'assignation. Enfin, moi, je suis une meuf cis. Mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus laissé place à ma masculinité ici. Parce que aussi, c'est un espace où, je sais pas, on fait beaucoup de chantiers, on fait du maraîchage, on est tout le temps en habit de chantier. Je sais pas, aussi même les gens autour de moi, il n'y a pas beaucoup de meufs très féminines. Et ça a été au début un peu une libération comme ça de me libérer de ma féminité. Et maintenant, ça a réévolué où j'ai envie d'être plus féminine. Et peut-être que c'est des chemins que font des meufs cis, féministes ou queer, de ces sortes de va-et-vient entre ok, je veux arrêter tous les signes de la féminité. Et maintenant, mais c'est aussi parce que j'ai fréquenté d'autres milieux que celui des Lentillères. Par exemple, je fréquente pas mal les fées qui m'ont appris au fait à réaccepter ma féminité. Et donc maintenant, j'ai l'impression de pouvoir être queer en étant féminine. En tant que meuf cis, ce qui n'était pas forcément évident à la base. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs mouvements comme ça. Finalement, il y a pas mal de personnes queer aux Lentillères. Mais si on élargissait un petit peu plus cette définition de queer, et pour moi, qu'on mettait genre tous les gens qui ne sont pas vraiment dans la norme capitaliste, typiquement quand on prend tous ces enjeux de validisme en compte, aussi les personnes précaires. En fait, il y a pas mal de gens... Enfin, pour moi, les Lentillères, c'est un endroit un peu queer, en fait, dans l'ensemble. Même si les gens se définiraient pas comme ça, ou qu'il y a des gens qui accepteraient pas que les gens se définissent comme ça, mais l'endroit, finalement, t'as tellement de gens tordus dans cette zone, plein de gens qui font des choses pas du tout dans la norme capitaliste, que, en fait, ouais, c'est clair que je me suis reconnue là-dedans et j'ai pu développer des aspects... De moi qui était complètement réprimée avant. Le fait de faire des choses un peu folles, un peu pas productives, de passer 3 mois à organiser un carnaval qui va juste... où tout est complètement éphémère et va disparaître le lendemain du carnaval. Enfin, tous ces trucs-là qu'on fait et qui sont... Je sais pas, il y a quelque chose de hyper puissant là-dedans, je trouve.
Des questions de se définir, elles se posent même pas. On n'a pas besoin d'en parler parce qu'il y a un respect total de la façon dont les gens se vivent leur genre ou leur sexualité, il me semble. Du coup, c'est presque un non-sujet. À partir du moment où c'est un espace de liberté, les choses, elles existent sans qu'il y ait besoin de les dire, quoi. Sans suspicion, quelquefois des personnes peuvent dire qu'elles peuvent apporter de l'argent pour un investissement au JDM, mais ça peut être aussi bien le RSA qu'une personne qui parle de l'argent qu'elle a gagné en tant que TDS. Et ça pose pas de problème. C'est le queer au sens propre du terme, mais aussi la marginalité sociale, c'est-à-dire que L'argent, quand on le trouve, c'est parfois par des ressources qui sont de travers. Et pour moi, queer, c'est ça que ça veut dire, de travers. Je l'entends toujours comme ça. C'est l'idée de ne pas entrer dans les cases ou de ne pas suivre les lignes droites et les angles droits. Et bien, ça est en train de m'apporter quelque chose de très chouette et surprenant, mais pas tant que ça, c'est que ça m'a aidé à reconstruire pour moi ma sexualité. Là, maintenant, je commence une relation avec une femme et c'est bien clair entre elle et moi que toute mon expérience alternative, que ça soit le quartier, enfin le mouvement autonome, mais aussi mes expériences sexuelles et homosexuelles, c'est un enrichissement. Elle le comprend bien mieux que le dernier homme avec qui j'ai relationné. Et moi, c'est ma singularité, c'est d'essayer de faire un pont. Avoir des relations hétérosexuelles, ça ne veut pas dire avoir un comportement hétéronormé. Et ça, j'en suis redevable aux expériences que j'ai faites et aux personnes que j'ai rencontrées.
Mais de manière générale, en fait, c'est l'esthétique. On en parlait des lentières du quartier. C'est un espace qui foisonne dans tous les sens et qui va s'enrouler autour de constructions qui ont été remodelées 100 000 fois. En fait, il faut imaginer ici, il y avait tout un parcellaire fait de maisons pavillonnaires avec petits jardins. Et ces jardins étaient séparés par des murs qui ont été éventrés quand les gens sont arrivés progressivement, qu'ils ont occupé au fur et à mesure toute la zone de 8 hectares. Ça a commencé par un petit pot de colle, un petit potager collectif. Puis au fur et à mesure des années, jusqu'en 2022, hop, les 8 hectares jusqu'à ici, la chouchou, ont été occupés. Et donc ces murs ont été éventrés. En fait, avant, il y avait une couverture végétale très, très mince, en fait. Donc il y avait quelques arbres qui se tiraient la bourre ici par là, quoi. Et oui, progressivement, au fur et à mesure des années, ça s'est étendu. Les arbres ont pris de la place. Il y a des sous-bois qui sont nés, des échappées de jardins comme le Mahonia, des espèces aussi de prairies sèches. Donc le BMX, c'est de la terre qui est retournée tout le temps. Donc il y a un look comme ça de labyrinthe enchevêtré, de chemins plus ou moins grands qui mènent à des petits jardins ou alors à des cours, des bâtiments, des caravanes. C'est très facile de se perdre et d'ailleurs les gens mettent souvent une semaine avant de capter comment marcher dans les lentières. Donc il y a tout ce truc de se familiariser avec les lieux, de savoir à qui on a affaire, de prendre le temps de se rencontrer. Et du coup, ça va en dehors des putains de cadres normatifs de « ah oui, il faut socialiser comme ça, ah oui, il faut marcher comme ça, ah oui », tu vois, enfin c'est ça l'écologie queer, c'est... On se plonge dans une réalité qui n'est pas la nôtre. On s'ouvre à l'altérité de ce qu'on a en face de nous. Et on ne relationne pas de manière schématique avec une personne comme avec une autre, avec un espace comme avec un autre. Et c'est ça qu'on combat. Et c'est ça que l'écologie queer arrive en fait à réunir. Et aux lentillères, ça saute aux yeux parce qu'en fait, tu ne peux pas l'ignorer. En fait. C'est 10 collectifs, ils ont des histoires, ça met du temps à découvrir les gens, les lieux, les récits, c'est des couches et des couches, et on le sent, c'est juste, ça apparaît comme un « waouh ». Ouais, il y a un bain mystérieux fait de branches et de broles et de collectifs en tout genre qui habitent là, qui habitent pas là, machin, tu vois. Donc pour moi c'est ça, c'est il y a un mot qui ressort souvent, c'est l'entremêlement, quoi. Ça aboutit, l'entremêlement, quand on le laisse faire, à des personnes et des endroits uniques qui sont territorialisés, c'est-à-dire qui ont une identité propre, marquée, qui est pas réplicable.
Merci à Sol, Jean-Yves, Duchesse et Max d'avoir participé à cet épisode. Et vive le quartier libre des Lentillères.